Seigneur, on te remercie pour cet amour qui est suffisant pour nous, parce que sur la croix, tu pensais à nous et c'est pour ça que nous sommes là ce matin, comme l'a dit Eric. Que cet amour puisse encore toucher nos cœurs ce matin, que ta vérité puisse ouvrir nos yeux, que ton esprit puisse nous remplir pour que nous puissions continuer d'aller de l'avant avec toi et de te rendre gloire, de transmettre ce souffle par lequel tu nous as touchés, Seigneur. Amen. J'étais un peu énervé et attristé. J'ai survolé quelques minutes d'un journal d'information française pendant ce week-end de Pâques. Et puis la journaliste dit « Ah, il y a eu quand même un vrai miracle de Pâques cette semaine, ce week-end de Pâques. » Je me dis « Tiens, ils vont parler de quelque chose, qu'est-ce qui s'est passé ?» Un couple en Angleterre qui avait gagné 1 million de livres à l'euro-million, 2 ans après vient de regagner encore une fois 1 million de livres à l'euro-million. C'est extraordinaire pour ce week-end de Pâques, un vrai miracle. Quelle tristesse. Ben, c'est super pour les gens qui ont gagné 2 fois 1 million de livres, hein, super pour eux. Ça avait l'air des gens modestes, ils étaient tout contents. Mais s'il n'y a pas d'autre espérance... Si le week-end de Pâques, la seule chose que ça a nous apporté, c'est qu'on peut gagner 2 fois l'euro million, ça c'est un beau miracle. Quelle tristesse. Et puis, pour ce matin, j'aimerais quand même, je ne veux pas vous choquer, mais parler de tiercé gagnant. Tiercé gagnant avec 3 mots. 3 mots qui contiennent 3 belles réalités. Amour, obéissance et vérité. Tiercé gagnant. Pourquoi ? Ben, en méditant sur ce chant, je ne sais pas si vous avez pu, bon, ça défile vite, moi je l'ai bien en tête parce que j'y ai passé ma semaine dessus. Mais une des choses qui m'a touché dans ce chant, ce n'est pas une chose que je ne savais pas, mais qui m'a touché en le méditant, c'est le fait que quand Jésus était sur la croix, il pensait à moi. Qu'à moi, non, mais aussi qu'à vous, hein, à chacun d'entre nous. Il avait à l'esprit tous ces millions d'êtres humains qui, par ce qu'il allait faire, hein, allaient pouvoir retrouver un chemin nouveau qui les mènerait vers le Père. Et je réfléchissais à ça, bien sûr, nous sommes humains, on n'est pas dans la situation de Jésus, mais ce qui avait fait que Jésus, sachant ce qu'il attendait, avait continué. Dans Luc 9, 51, premier verset, c'est un petit peu avant que Jésus, quelques jours avant la crucifixion, il est dit ceci, « Lorsque le temps approcha où Jésus devait être enlevé de ce monde, il décida de manière résolue de se rendre à Jérusalem. » Pour une fois, j'ai fait un retour en arrière dans la vieille version de Darby, parce que j'aimais la moitié de ce verset dans cette version. « Lorsque le temps où Jésus devait être enlevé de ce monde approcha, ça c'est pareil. » Darby traduit, il arriva qu'il dressa sa face résolument pour aller à Jérusalem. C'est du vieux français, c'est un peu bizarre. Hein. Il dressa résolument sa face pour aller à Jérusalem. Il savait ce qu'il y avait là-bas, il savait ce qu'il attendait, hein, il connaissait déjà ces choses-là. Et puis, il s'est tourné vers cette chose-là et il a dressé résolument sa face vers là. Et je pensais à ça, et c'est pour ça qu'on a déjà nos 2 premiers mots, hein, amour et obéissance. Quel rapport il y a entre ces 2 mots ? Dans Jean 15, 3, Jésus dit, il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. On connaît ces versets. Et puis je m'apercevais comment souvent, en prenant des choses vraies, c'est toujours un des plus grands pièges avec la Bible, mais en les dissociant, on les désactive. Un petit peu comme dans le corps humain, vous savez, il y a certains trucs qu'on doit prendre, mais si vous ne prenez pas autre chose en même temps, vous ne le fixez pas et vous le prenez pour rien. Quoi. Vous manquez de magnésium, mais parce que vous n'avez pas le machin de truc bidule, vous en prenez, puis ben, vous l'évacuez, et ça ne sert à rien parce que vous manquez de calcium, mais comme vous n'avez pas aussi du... Je sais pas, j'oublie tous les noms, mais je ne suis pas dans ce domaine-là. Vous ne le fixez pas. Pour nous, c'est pareil. Et puis, selon la culture, le caractère, le tempérament, le moment de nos vies, on est branché sur un truc souvent. Alors l'amour, ben, l'amour c'est superbe, l'amour c'est fou, l'amour c'est beau, l'amour c'est la passion, les arts, on y va, on en a plein le cœur. Hein. Mais l'amour tout seul, quand les vraies, vraies, vraies difficultés arrivent, qu'est-ce qui se passe hein? Eh bien, on ne va pas vers Jérusalem, parce que l'amour ne nous y porte plus vraiment. C'était beau l'amour au début, et puis maintenant elle ronfle la nuit, et puis maintenant elle a pris des kilos, et puis maintenant elle est comme ci, puis maintenant elle est comme ça, puis l'amour, bof. Hein? Mais il y a l'amour et l'obéissance. Hein? Maintenant, si on prend l'obéissance sans l'amour, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça, on connaît assez bien. Hein? L'obéissance sans l'amour, ça produit le légalisme. On a une belle description, toujours dans l'évangile de Jean, Jésus dit, chapitre 10, verset 12, Celui qui n'est pas le berger, qui n'est pas le propriétaire des brebis, mais que l'on paye pour les garder, se sauve dès qu'il voit venir le loup. Et il abandonne les brebis. Alors le loup se précipite sur elles, il s'empare de quelques-unes et disperse le troupeau. Cet homme agit ainsi parce qu'il est payé pour faire ce travail. Il n'a aucun souci des brebis. Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis me connaissent. Tout comme le Père me connaît et que je connais le Père. Je donne ma vie pour mes brebis. Le Père m'aime parce que je donne ma vie, mais ensuite je la reprendrai. En effet, personne ne peut m'ôter la vie. Je la donne de mon propre gré. J'ai le pouvoir de la donner et de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Dans la première partie de ce passage, on a la description des limites de l'obéissance. L'obéissance, c'est les gens qui font parce qu'on leur a dit. Il faut le faire. Alors on le fait. Mais quand le loup arrive, celui qui travaille que par l'obéissance, il se dit, oui, obéir, d'accord, mais ça a des limites. On ne meurt pas par obéissance. Et Jésus, lui, explique comment il est le bon berger parce que il aime ses brebis, aimer, ce n'est pas juste des émotions, hein, mais il les connaît. Il a une relation avec elles. Il sait qui elles sont. Il sait quels sont ses besoins. Il y a tout cet aller-retour, cet échange entre lui et ses brebis. Hein. Mais ce n'est pas juste de l'amour ou juste de l'obéissance. C'est les deux mélangés. Hein. C'est le plan qu'avec notre Père, nous avons décidé. C'est Jésus qui dit ça. Et puis, par amour, je vais obéir. Et l'obéissance va amener l'amour à porter des fruits jusqu'au bout. Il ne faut pas enlever un des deux, il ne faut pas opposer l'un à l'autre. L'amour tout seul n'arrive pas au bout parce que on vit dans un monde difficile, dans un monde méchant, où il n'y a rien qui va bien, où tout va naturellement vers le mal toujours. C'est triste, mais c'est comme ça. Les gens en bonne santé finissent toujours par être malades un jour. Dans le pire des cas, ils ne sont pas malades, mais ils meurent en bonne santé. Mais hein, les beaux jardins finissent toujours par être envahis par les herbes. Les gens jeunes finissent vieux, etc., etc. C'est le cours des choses dans le monde où on vit. Tout va vers le moins bien naturellement. Et quand on est confronté à l'injustice, à la difficulté, à la haine, à l'échec, à toutes ces choses-là, notre amour s'essouffle. Hein. Et l'obéissance n'a pas l'énergie pour nous porter. Mais l'amour et l'obéissance, ou plutôt l'obéissance énergisée par l'amour. Hein. Avec le carburant de l'amour, l'obéissance permet d'aller jusqu'au bout du chemin. Maintenant, il manque encore un élément, et c'est la vérité. Parce que si je veux obéir à l'amour, mais que je pars dans la mauvaise direction, je vais peut-être continuer jusqu'au bout, mais je ne vais pas trouver le bon bout. Je vais passer à côté. Et ça, c'est une chose qui est dramatique dans les relations humaines, quand on constate combien de fois on voit des conflits entre des gens qui s'aiment vraiment, mais qui ne se comprennent pas. Et l'un dit une chose, et l'autre comprend autre chose, l'autre répond autre chose, et l'autre a compris autre chose. Il y a de la volonté, il y a de l'amour, mais ça passe pas. C'est pareil dans nos vies spirituelles. On peut être animé de l'amour de Dieu, on peut être obéissant ou vouloir obéir, mais on a besoin aussi de la vérité. Jésus n'avait pas d'effort à faire pour cette partie-là. La vérité faisait partie de ses pensées. il n'était pas corrompu par l'égoïsme, par le péché, par ces choses-là. Hein. Nous, il faut nous rappeler que pour naviguer sur cette terre, nous avons un gros problème, c'est que notre boussole a été abîmée. Hein. Elle indique naturellement la mauvaise direction. Quand je regarde la boussole pour savoir vers où je devrais diriger ma vie, qu'est-ce qui est important ? Elle indique toujours une fausse direction, toujours la même. Moi. 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 C'est une boussole qui ne fonctionne pas. Or, quand je dirige ma vie vers moi, il n'y a pas au bout ce que j'attendrai. Jamais, jamais, jamais. Si le but de ma vie, c'est moi, hein, c'est paradoxal, parce qu'on pourrait dire quelqu'un qui s'occupe de lui va avoir ce qu'il veut. Ça paraît logique, quoi. Si je mets toute mon énergie à m'occuper de moi, je vais avoir ce que moi je veux. Eh bien non. Oui, dans les choses matérielles. Oui, peut-être dans la promotion dans une entreprise. Oui, pour gagner de l'argent. Mais ce qu'on veut réellement, ce n'est pas ces choses-là. Hein. Pourquoi quelqu'un veut être riche, être beau, être jeune, être en bonne santé, être le premier dans son entreprise, avoir une grosse voiture, une grande maison, etc., etc. Pourquoi on veut ces choses-là et on y met toute notre énergie ? Pour ce qu'elles apportent derrière, hein, pour être aimé, pour être accepté, pour être respecté, pour être en sécurité, pour avoir une place, pour être reconnu, pour ne pas être seul. C'est ça qu'on veut derrière. Or, quand j'oriente toute ma vie vers moi, m'occuper de moi, j'obtiens ces choses-là, éventuellement, surtout dans un pays comme ici, pas dans tous les pays, mais ici, oui. Si on décide de passer sa vie à s'occuper de soi, on peut finir avec beaucoup d'argent, une belle maison, quelques belles voitures, etc., etc. Par contre, il n'y a pas ce qu'on attendait derrière, parce que ça ne se trouve pas là. Et c'est là où la vérité a besoin de venir rectifier notre boussole. Quand Jésus dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, quand il nous dit qu'il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir, il ne parlait pas que pour les boxeurs, il y a une vérité qui nous est étrangère. C'est que ce que nous cherchons en essayant d'avoir, de garder, de posséder, de contrôler, ça ne se trouve pas là. Ça existe, mais ça ne se trouve pas là. Ça se trouve ailleurs. Et c'est pour ça que nous avons besoin de la vérité. La vérité, elle est extérieure à nous au départ. Parce que personne qui réfléchit sur sa vie, quand il est jeune encore, et puis en vieillissant, se dit... Si je veux être satisfait, si je veux que mon âme soit rassasiée, parce que c'est ça qu'on veut, hein. On voudrait que l'insatisfaction, le vide, la crainte, la peur, l'envie de tout ce... Cette espèce de... Ouais, moi j'appelle ça le vide qui est en nous, on aimerait qu'il soit rempli. J'ai plus faim, j'ai bien mangé, j'ai besoin de rien, je suis satisfait. C'est ça la richesse. Plus avoir besoin de rien. C'est pas avoir beaucoup. Avoir beaucoup, si vous manque tout, ça sert à rien. C'est être rassasié. Et c'est ce que j'aimais aussi dans ce chant. Hein. Toi seul peux rassasier ma vie. Ça, c'est la chose la plus près du bonheur qui existe sur Terre. Mais pour trouver cette chose-là, j'ai besoin de vivre selon la vérité. La vérité n'est pas là pour nous empêcher de faire ce qui est bien et nous faire faire des choses désagréables que personne ne voudrait faire. Elle est là pour nous donner la direction pour arriver à cette satisfaction de l'âme qui fait que le soir, je vais me coucher en me disant si je meurs ce soir, j'espère pas, mais si je meurs ce soir, je suis rempli, j'ai mangé, je suis satisfait. Pas de moi, hein, mais je suis rempli par sa vie à lui et puis il ne me manque rien. Demain matin, le vent, il me manquera de nouveau tout, mais ce n'est pas grave parce qu'il sera de nouveau là pour me remplir. Et donc, on a besoin de combiner ces trois choses. L'amour, l'obéissance et l'obéissance à la vérité. On a un verset qui regroupe toutes ces choses-là. Dans... Il est où ce verset ? Il semblerait que j'ai oublié de le noter, c'est super. Dans l'épître de Pierre, il est dit... Hein, après avoir purifié vos âmes dans l'obéissance à la vérité, aimez-vous les uns les autres d'un amour sincère. Premier épître de Pierre, chapitre, je ne sais plus combien, verset quelque chose. Après avoir purifié vos âmes, vous le trouverez, ce n'est pas compliqué. Après avoir purifié vos âmes dans l'obéissance à la vérité, aimez-vous ardemment les uns les autres. Et là, c'est toutes ces choses-là qui sont regroupées. L'amour, c'est la source d'énergie, c'est la motivation. Parce que sans ça, il n'y a rien qui tient. On devient légaliste, on devient frustré, on devient amer, on devient rigide. On est toujours en train de critiquer les autres, ils n'ont pas fait assez, c'est leur faute, ou de se critiquer soi-même. Donc l'amour est le point de départ et on le reçoit de Dieu. L'obéissance, c'est notre part. On n'est pas capable d'obéir à Dieu, mais on peut désirer obéir à Dieu en recevant son amour. On mélange ces deux choses-là. Et puis la vérité, elle doit venir nous redonner la bonne direction. Et ça explique pourquoi on doit lire la Bible, par exemple. Pourquoi on se rassemble, pourquoi on étudie la Bible, pourquoi on discute de ces choses-là. Honnêtement, qu'est-ce que ça change pour Dieu que vous lisez votre Bible ou pas, que vous sachiez ce qu'elle dit ou pas, que pour lui, ça ne change rien. Il n'a pas besoin de ça pour vous aimer plus ou moins. Lui, il connaît ses propres pensées, ben, il les connaît, c'est les siennes. C'est pour nous. C'est notre carte, c'est notre GPS, c'est notre boussole. C'est ce qui fait que je vais mettre mon obéissance motivée par l'amour dans la bonne direction. Si vous êtes perdu dans le désert et que vous voulez sortir de là, il vous faut la force de marcher, il vous faut donc l'énergie, il faut la volonté de marcher, et puis il vous faut une cape. Parce que si vous tournez en rond ou que vous partez dans la mauvaise direction, ben vous n'allez pas arriver au bout. Et c'est comme ça que ces choses s'articulent ensemble et ne doivent pas être séparées. L'amour, l'obéissance et la vérité. C'est parce que Jésus avait ces choses-là en lui qu'il a dressé résolument sa face vers Jérusalem. Dans les versions modernes, hein, il prit la ferme décision de. Les choses ne se font pas toutes seules. J'ai un de mes fils qui est en train d'essayer de, pas de revenir à la foi, mais de reprendre certains repères dans sa vie chrétienne. Puis hier soir, il me dit, oh, j'aimerais bien venir, oui, il était en visite, puis j'aimerais bien venir au culte demain matin. Il n'est pas là ce matin. Mais ah ben, je ne me suis pas réveillé. Oui, mais si je veux venir au rassemblement parce que je pense que c'est important, mais que je me couche à 4 heures du matin, que je ne mets pas de réveil, c'est évident, même si j'aime Dieu, que je ne serai pas là. Ce n'est pas un problème, Dieu l'aime autant, pareil. Mais on fait tout ça à certaines choses. Je veux, mais en fait je ne veux pas. Parce que si je mélange l'amour avec l'obéissance et que je me conduis par ce que me donne la vérité, ça va se faire. Avec des erreurs, avec des échecs, on se trompe. Personne n'est parfait dans l'amour, personne est parfait tout le temps, ou même pas parfait, mais bon dans l'obéissance, et personne connaît la vérité parfaitement. Mais c'est vers ça qu'on va. Hein. C'est ce qui va nous permettre de le faire. Nous, on est incapable d'y arriver, on ne peut pas. Hein. Mais Jésus, lui, l'a fait parfaitement pour nous. Et ça, c'est ce qui est extraordinaire. Lui, il y est arrivé. Hein. Parce que chez lui, l'amour était parfait, l'obéissance était parfaite. Et la vérité habitait en lui pleinement. Il a dit, je suis la vérité. Donc, ces trois choses-là, et beaucoup d'autres, se trouvaient réunies en lui, et ont fait que ce que nous, on ne pourra jamais faire, il l'a fait pour nous. Et c'est pour ça qu'il a marché jusqu'à la croix, c'est pour ça qu'il n'a pas reculé, et ce n'était pas facile, hein, et c'est pour ça qu'il a donné sa vie, et ça c'est aussi une chose qui me touche, hein, on ne lui a pas pris. Je donne ma vie, je l'offre. Quand on vit dans l'obéissance motivée par l'amour, en marchant selon la vérité, il y a au moins une chose qu'on évite, c'est la frustration. Parce que quand on vit comme ça, on ne vous prend rien. La vie ne vous prend pas les choses. Paul, qui avait assez bien compris ces trois éléments-là, alors qu'il est emprisonné par les Romains dans une prison avec des chaînes, il écrit, « Moi, prisonnier de Jésus-Christ. » Pas prisonnier des Romains, des circonstances, des gens, du monde qui va mal, des injustices. « Oh, j'ai voulu servir Dieu, maintenant je suis en prison, ce n'est pas juste. » Non. J'ai fait ce que j'avais à faire en obéissant à la vérité motivée par l'amour de Dieu et je suis là où je dois être et ce n'est pas facile, tant pis, mais je ne suis pas prisonnier des hommes, des situations, je suis là où je dois être. Je vivrai comme je dois vivre et je mourrai là où je dois mourir. Ça, c'est la vie qui contient ce qu'on cherche tous. Ce qu'on cherche en ayant plus d'argent, plus de vacances, plus de maisons, plus de ci, plus de reconnaissance, plus de gloire, ça ne se trouve pas là. Ces choses-là ne sont pas mauvaises, mais elles n'apportent pas la vie. Elles ne remplissent pas l'âme. Elles ne donnent pas la satisfaction. Elles ne nous laissent pas comme après un bon repas, quand... Alors, on fait en ce moment, j'imagine, ce week-end, à droite, à gauche, on fait des bons repas. Vous savez, quand vous avez fini, il y a encore plein de bonnes choses sur la table, mais vous ne pouvez plus mettre une cuillère dans la bouche. Dans ce moment-là, partager ce qui reste, ce n'est pas difficile. L'offrir aux autres, vous n'avez plus faim. Vous savez en plus qu'il y aura un autre bon repas qui arrive dans 4 ou 5 heures. C'est facile d'être généreux comme ça, de donner, de partager. C'est comme ça que Dieu veut qu'on vive. Pas tout le temps, pas parfaitement, pas ça, mais on doit revenir à ces choses-là. Et ce que Jésus a fait en marchant résolument vers Jérusalem, en choisissant de donner sa vie, en mourant, en ressuscitant, c'est de rendre ce chemin possible déjà, de rendre tout ça accessible pour nous, mais aussi de relier un seul morceau, le bonheur sur terre et le bonheur dans l'éternité. Souvent, on a reproché historiquement aux chrétiens, ah ben oui, l'évangile, c'est bien, ça permet d'accepter que les patrons oppressent les ouvriers, que les riches oppressent les pauvres, que les seigneurs profitent de leurs esclaves, et puis on leur dit, ben, souffrez sur terre, au ciel, ça ira mieux. C'est pas du tout le message de l'évangile, c'est pas ça. Mais c'est vrai que Christ est venu relier... donner un sens à nos vies sur terre et la plénitude qu'on va vivre parfaitement dans l'éternité. Et j'aimerais vous lire un texte, il est peut-être un peu inaccessible pour certains, mais tant pis, il est trop beau, je vous le lis quand même, vous en prendrez tous quelque chose. Écrit par moi, une de mes auteurs préférées, Sylvie Germain. Alors le contexte est un peu bizarre parce qu'elle parle d'une vision que Bernadette Soubérous a eue, donc ça c'est pas le sujet, on s'en moque, hein. Mais dans cette vision, elle a compris des choses et puis oublié que c'est elle, mais c'est une petite servante qui parle de ça parce qu'elle observe. Et puis, voilà ce qu'elle dit. Cette promesse laissait Madame Soulanges sceptique, parce que malgré sa bigoterie, elle avait les pieds bien calés sur le plancher des vaches. Et parmi la kyrielle de proverbes dont elle aimait faire usage, elle citait souvent en prenant un air finaud, « Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. » Le bonheur, c'était ici, maintenant qu'elle le voulait. Palpable, dégustable, du bon bonheur du terroir, à consommer sur place. Parce que celui de l'autre monde, on ignorait quelle consistance et quelle saveur il avait, et quelle part on en recevrait. La promesse formulée par Dieu me semblait au contraire d'une grande sagesse et faire preuve d'un profond réalisme, car je n'y entendais pas deux bonheurs distincts, l'un terrestre qui aurait été refusé à Bernadette, l'autre céleste qui lui aurait été réservé pour après sa mort comme une sorte de récompense ou de dédommagement, mais un seul bonheur, tout d'une pièce, terrestre et céleste à la fois, temporel et éternel, d'un tenant, le bonheur d'être au monde en ce monde-ci, de l'habiter pleinement et l'aimer, tout en le reconnaissant inachevé, traversé d'obscures turbulences, troué de manque, d'attente, meurtri, raviné par d'incessantes coulées de larmes, de sueur et de sang, mais aussi irrigué par une inépuisable énergie, travaillé de l'intérieur par un souffle à la fraîcheur et à la clarté d'aurore, caressé par un chant, un sourire. Le bonheur imparti à Bernadette, comme à tous les hommes et les femmes, vous pouvez mettre votre prénom à la place de Bernadette, de sa trempe, consistait à avoir reçu un don de clairvoyance, de clairaudience, qui lui permettait de percevoir l'invisible diffus dans le visible, la lumière respirant même au plus épais des ténèbres, un sourire radieux se profilant à l'horizon du vide, affleurant jusque dans les eaux glacées du néant, le don d'une autre sensibilité, d'une intelligence insolite et d'une patience sans garde ni mesure, le don d'une humilité lumineuse, minuscule clé de verre, de vent, ouvrant sur l'inconnu, sur l'insoupçonné, sur un émerveillement infini. J'étais très touché par ce passage, c'est un passage que je relis souvent, de voir comment on ne peut pas séparer les choses et on ne doit pas séparer les choses. Dieu veut satisfaire nos âmes ici-bas, dans ce monde méchant, pourri, tordu, corrompu, et puis pour nous amener jusqu'au bout, et hop, passer cette porte que Christ a passée le premier pour nous par la mort et la résurrection, pour continuer à être encore satisfait avec lui et par lui dans l'éternité. Et tout ça, c'est possible parce que Christ a fait ce qu'il a fait, parce qu'il a dressé résolument son visage vers Jérusalem, parce que l'amour, l'obéissance et la vérité ont travaillé ensemble pour l'amener jusqu'au bout. Alors, j'aimerais qu'on réécoute encore une fois le chant que j'ai passé au début, et puis laisser le Saint-Esprit faire descendre ces choses-là dans nos cœurs pour que son amour d'abord nous remplisse, pour que notre volonté décide de marcher dans l'obéissance, et pour que la vérité nous guide et soit notre boussole.